va parler à présent antisémitisme avec l'une des expertes mondiales du sujet, puisque Ruth Dar nous a rejoint dans les studios. Erev Tov, Ruth.
Erev Tov.
Toda Shebat, merci d'être venu nous voir ici dans les studios de Radio Shalom. Vous êtes diplomate israélienne du ministère des Affaires étrangères et vous êtes en fait la directrice du service de lutte contre l'antisémitisme et pour la mémoire de la Shoah. Vous êtes également directrice adjointe de la délégation israélienne auprès de l'IRA. L'IRA, c'est un organisme très important au niveau international parce que il est l'auteur d'une définition de l'antisémitisme qui a fait date, c'était en 2016, et qui définit l'antisémitisme selon un point de vue qui a été accepté par 31 États à travers le monde, et en fait c'est la référence. Donc vous êtes, vous, la déléguée adjointe d'Israël auprès de cette conférence. Vous êtes venue à Paris, alors ça fait beaucoup de présentations, mais comme ça au moins les gens comprennent. Vous êtes venue à Paris pour participer à une conférence qui a été organisée par le Conseil de l'Europe et par, par l'État d'Israël, tout simplement, par l'ambassade.
C'était
un rassemblement qu'on a fait avec le Conseil de l'Europe et avec notre ambassade ici à Paris. On a choisi la date en raison du contexte, parce que c'est l'anniversaire de la nuit du cristal. Mais malheureusement pour les Juifs d'Europe aujourd'hui, et singulièrement pour les Juifs de France, la date ne change plus grand-chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ce qui étonne, c'est de voir avec quelle facilité l'antisémitisme le plus classique est revenu.
C'est
très vrai. Malheureusement. Je suis d'accord avec vous. Particulièrement dans les dernières années, on voit une montée de l'antisémitisme partout dans le monde. Et dans les deux dernières années particulièrement, depuis le début de la crise du corona, on voit une montée très claire dans l'antisémitisme, mais pas seulement qu'en France. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans des endroits où avant on n'a jamais entendu parler d'actes antisémites. Donc c'est très inquiétant. Et le gouvernement, avec le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, tout à fait très engagé, et elle travaille pour amener une aide aux communautés juives à travers le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici en France, pour se confronter, pour être face au gouvernement des différents pays.
C'est là que vous pouvez aider, parce que moi je me posais un peu la question, je me suis dit, il n'y a pas d'antisémites en Israël, donc c'est bien de vouloir aider à ce qui se passe en Europe, mais malheureusement la réponse, elle peut a priori n'être que française.
C'est vrai. L'aide doit venir d'abord de France. L'antisémitisme, ce n'est pas un problème juif. Il faut savoir que depuis le président jusqu'aux derniers citoyens, que l'antisémitisme est un problème social, est un phénomène français qui est né sous la démocratie, qui touche aux liens sociaux, qui fait des différences entre les communautés. Il est clair que à la fin de la journée, c'est le juif qui souffre de ça. Mais ça touche, c'est un problème qui doit concerner tout le monde. Et nous devons amener au gouvernement, aux mairies, nous devons amener notre matériel, ce que nous avons, notre savoir. Mais je vous interromps de nouveau, je suis désolé, je suis mal élevé, mais je ne crois pas que les Juifs de France aient un problème avec le gouvernement. Mais même en Europe d'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait un vrai problème, peut-être en Pologne. Mais on n'a pas un problème avec le gouvernement. Le problème, il est dans la rue.
Ouais.
Et notre rôle, nous, c'est de taper à la porte pour que le gouvernement soit plus déterminé dans la lutte contre l'antisémitisme, mais qui vient de la rue. Il y a vraiment très clairement une très grande différence entre la détermination du gouvernement. En France, c'est encore plus clair. Le Premier ministre, jusqu'au maire de ville, les ministres entre eux, les présidents, tout le monde veut se battre contre l'antisémitisme. Mais il faut se battre physiquement contre des attaques qui touchent physiquement les Juifs. Et donc nous, notre rôle, c'est de créer un dialogue avec les gouvernements pour trouver le chemin. Alors, on a un phénomène très français qui s'appelle le phénomène Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, il dit une chose, il dit, mais vous savez, aujourd'hui, on tue plus les Juifs en disant « Heil Hitler », on tue les Juifs en disant « Allahu Akbar ». J'aimerais savoir si vous êtes d'accord, vous, avec cette vision des choses de Éric Zemmour.
היום תוקפים יהודים בכל העולם,
aujourd'hui on attaque des juifs partout dans le monde, pas seulement avec Heil Hitler. Alors justement, il dit on tue plus les gens avec Heil Hitler, on tue les gens avec Allahu Akbar.
יש אנטישמיות מימין, יש תנועות פשיסטיות ונאונציות ברחבי העולם שפורחות, גם באירופה, גם
בארצות הברית,
כל התנועה של עליונות לבנה, white supremacy.
Par exemple, les suprémacistes blancs.
יש אנטישמיות מצד קהילות מוסלמיות באירופה, ברור. יש אנטישמיות מוסלמית בעיקר, מקורה בעיקר באסלאם הרדיקלי, אבל יש גם אנטישמיות שמפיצים
Il y a des gens qui sont en train de se faire.
היא חמקמקה. קשה מאוד לזהות אותה.
C'est très difficile de l'identifier parce que justement elle se cache derrière une idéologie. Quelqu'un te dit qu'il est nazi, c'est très clair, c'est facile.
כשמישהו בא משמאל, הוא מדבר איתך על חירות ועל שוויון ועל קולוניאליזם, מדברים על מדינת ישראל כמדינה קולוניאליסטית, בלי בכלל להבין את ההיסטוריה, בלי בכלל להכיר את הפרטים, בלי בכלל, גם לא מעוניינים לרדת לפרטים. אם אתה בא לדבר עם אדם שבא מאידיאולוגיה פרוגרסיבית, האידיאולוגיה של השמאל, יש מסך זכוכית, אתה לא עובר את המסך הזה, כי אתה ישראלי,
ואין מה לדבר. Et vous ne pouvez pas passer ce mur de verre qui est presque invisible, parce que vous êtes israélien, vous êtes un assassin, et vous voulez des terres. Alors je vais vous donner un exemple qui va aller totalement dans votre sens. J'ai vu une photo magnifique sur Twitter. On voit des manifestants à Glasgow, au moment de la COP26, dire « La question palestinienne est aussi une question de climat ».
Alors moi, je vais vous raconter quelque chose.
Le responsable palestinien vient à Glasgow et il fait un discours. Et il dit que l'État d'Israël vole l'eau des Palestiniens.
Quand tu vois sur le,
quand tu descends sur le terrain, tu vois que c'est le contraire. Les sources d'eau sont développées par les Israéliens. Mais moi, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de discussion entre nous, savoir si on doit être présent dans les territoires palestiniens ou pas. Peut-être qu'on ne doit pas y être. Mais c'est un discours politique. Et eux prennent le discours de l'environnement et le transforme pour que, et disent que c'est le cœur du conflit israélo-palestinien. Mais nous, on dit non, il y a un conflit entre Israéliens et Palestiniens, c'est un conflit sur, qui est territorial, qui est historique, qui est un combat de droit, mais nous aussi, nous avons un droit à l'autodétermination, il n'y a pas que les Palestiniens. Mais la gauche veut qu'on n'ait pas de droit à l'autodétermination. Alors, tu regardes et tu vois que sur le terrain, les Palestiniens l'autorité
palestinienne,
l'eau qui vient de l'autorité palestinienne n'a pas, ne connaît pas de, de limite. Donc on voit l'eau qui passe en Israël, qui passe en territoire palestinien, mais le leader palestinien dit que nous on coupe l'eau.
מי שאל אותו שאלה על זה? מי בדק את העובדות?
כי היא פוזה אינה קשיון, כי היא ראיתי את זה
שהפלסטינים הם מסכנים הקורבנות.
לא, הפלסטינים הם
מסכנים
הקורבנות. הם מסכנים הקורבנות. הם מסכנים הקורבנות.
מקבלים את זה כמובן מאליו.
זה אקספטי כמו זה.
וזה התפקיד שלנו פה להגיד לא.
Donc nous c'est notre rôle. Aussi de dire c'est pas vrai, il faut regarder les choses, c'est compliqué.
אין שחור ולבן בחיים בכלל, ובמקרה הזה בטח לא.
Alors, la question est encore, d'après moi, beaucoup plus complexe. Excusez-moi, avec votre permission. C'est-à-dire, parce que vous parliez tout à l'heure d'un mur de verre. Vous avez tout un courant qui se développe aujourd'hui, qui dit la lutte pour l'écologie, c'est aussi la lutte pour les Palestiniens, mais je vous rassure, y compris pour les LGBT, pour... il y en a tout un courant comme ça qui se développe et qui est vraiment, je crois, le mur de verre que vous décriviez. Avec votre permission, Ruth Bar, diplomate israélienne du ministère des Affaires étrangères et directrice donc du service qui lutte contre l'antisémitisme à travers le monde, mais à Jérusalem, on se retrouve dans une petite seconde. On se retrouve avec Ruth Dar, qui est une diplomate importante du ministère des Affaires étrangères en Israël, qui dirige tout le service de lutte contre l'antisémitisme à travers le monde, aussi pour la mémoire de la Shoah, et qui est à Paris pour participer à une conférence organisée par le Conseil de l'Europe
en liaison avec l'État d'Israël sur l'antisémitisme. Donc c'est une experte qui est avec nous, je l'ai dit en tout début d'émission. Elle est également directrice adjointe de la délégation israélienne auprès de l'IRA. Enfin bref, c'est une experte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Excusez-moi, c'est juste avant la pause, à ce que je vous ai dit sur le fait qu'on considère aujourd'hui dans ce qu'on appelle cette espèce d'énorme charivari, cette énorme, je sais pas moi, marmite, supermarché, appelez ça comme vous voulez, qu'on appelle le wokisme, dans lequel les Palestiniens sont mélangés avec les LGBT, la lutte contre le transgénisme, enfin que sais-je moi, le combat de la transversalité, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce que je vous ai
dit?
Oui, on en a parlé tout à l'heure. Il faut essayer déjà de faire la séparation entre ce qu'est le conflit israélo-palestinien dont on doit s'occuper et les problèmes. Il faut s'occuper de ce conflit, on est d'accord, mais c'est une chose. C'est pas noir et blanc ou rouge ou vert. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de composants qu'on doit connaître. Il y a deux peuples. Et ces deux peuples ont un droit à l'autodétermination et il faut le permettre.
Et
ceux qui soutiennent les Palestiniens oublient que les Juifs aussi ont des droits. Maintenant, concernant ce grand mélange dont vous parlez, par exemple avec les LGBT, je vais vous raconter quelque chose. Il y a eu une photo qui est sortie sur Internet. On voit des femmes avec un drapeau, le drapeau arc-en-ciel de LGBT. Et ils avaient écrit en dessous qu'elles soutenaient le Hamas. Mais elles ne se sont même pas demandé qu'est-ce qui se passe aux femmes LGBT à Gaza. Dans le meilleur des cas, on les expulse de l'endroit, de Gaza. Dans le pire des cas, on les assassine. Parce qu'elles n'ont pas de droit d'exister. Mais ça ne les a pas dérangées, ça ne dérange pas ces jeunes filles aux États-Unis. Donc elles soutiennent le Hamas avec le drapeau arc-en-ciel des homosexuels. Je crois qu'en 2016, il y avait une manifestation à Chicago, est arrivée une délégation de femmes juives, lesbiennes. Et elles sont venues avec toujours le même drapeau arc-en-ciel. Mais parce qu'elles étaient juives, on leur a dit qu'elles ne pouvaient pas rester. Donc il y a des droits pour les LGBT, les homosexuels. Et
on leur a dit, votre drapeau, il est fasciste, parce qu'il y a dessus l'étoile de David, qui est en fait l'étoile du drapeau d'Israël, et on leur a demandé de ne pas participer à la manifestation, c'est vrai. On s'angoisse un peu, mais il y a quand même des choses qui sont positives à travers le monde. Fort heureusement, il reste encore des bons motifs d'espérer. Il y a Radio Shalom, par exemple. Et il y a aussi le fait
Shalom,
que... par exemple, il y a des accords de paix avec les pays du Golfe, des accords d'Abraham, ça, c'est optimiste. Il y a un espoir au Moyen-Orient, des bonnes choses. Et des coopérations dans tous les domaines. Je peux vous raconter, par exemple, que la semaine prochaine, nous allons faire un rassemblement, une conférence, nous, le ministère des Affaires étrangères, avec les Émirats, sur la tolérance. Et on va faire venir des responsables religieux qui vont venir participer à ce congrès pour promouvoir la tolérance. Donc oui, il se passe des choses nouvelles au Proche-Orient. Il faut s'occuper des problèmes, mais il faut aussi se souvenir qu'il y a des belles choses. Et des bonnes raisons d'être optimiste. Et je veux dire un mot pour la France. Donner un peu d'optimisme malgré la situation qui est très compliquée ici en France. Mais il y a un engagement très très significatif de toute la direction française, du gouvernement, beaucoup de maires de grandes villes qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour lutter contre l'antisémitisme. Et il faut les aider dans ce combat. Alors, dans les événements positifs au niveau international, il y a aussi l'échec de la conférence de Durban. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était le 22 septembre à New York, durant l'Assemblée générale des Nations Unies. Les pays les plus hostiles à l'État d'Israël voulaient marquer le 20e anniversaire de la conférence de Durban. On va pas rentrer dans les détails, bien que ça soit vraiment votre domaine, c'est dommage. Mais c'est une conférence qui avait vraiment, qui devait lutter contre le racisme et qui s'était terminée en fait à lutter contre Israël. Ça n'a pas eu lieu.
Vous parliez d'ailleurs de l'implication des dirigeants, ben notamment les Français ont dit nous on n'y va pas, si c'est pour faire ça, si c'est pour mettre les Israéliens le dos au mur, ça nous intéresse pas, on n'est pas là pour les fusiller. Donc c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une vision des choses parce que ça bouge tellement que à la limite ça rajoute un peu au stress.
אבל קרה משהו טוב עם דרבן.
Mais c'est
Durban,
quelque chose de bon par rapport à Durban. Durban, c'est le top, c'est le maximum de l'expression antisémite. C'était une conférence contre le racisme, mais finalement, ça a été l'un des rassemblements les plus antisémites de l'histoire contemporaine, de l'histoire moderne. Tout ce qui a été dit. Mais il s'est passé quelque chose de bon cette année. 38 pays ont refusé de participer à cet anniversaire de Durban. Et pas des pays de qui on attend le plus, mais y compris des pays qui sont allés là-bas parce qu'ils croyaient qu'on parlait du racisme. C'est peu, 38 pays, c'est seulement 38. Mais c'est un point qu'on peut regarder, il faut aussi regarder le verre à moitié plein. Et peut-être qu'on commence à comprendre qu'il y a des choses qu'il faut les mettre dans leur vrai contexte et les regarder de manière juste. On ne peut pas se quitter sans parler de ce qui se passe sur Internet et sans parler d'éducation, puisque c'est vraiment votre domaine, l'éducation. Vous avez même donné des cours, dispensé des cours en ligne contre l'antisémitisme. Mais là, pour le coup, Internet, ça donne vraiment l'impression d'être inarrêtable. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que les directions des grands réseaux sociaux donnent l'impression de ne pas vouloir prendre de sanctions. Est-ce que Internet, c'est arrêtable?
Alors
d'abord, il n'y a rien à faire. D'abord, déjà, il n'y a rien à faire d'autre que d'investir dans l'éducation. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Les enfants d'aujourd'hui vivent sur Internet. C'est ce qu'ils connaissent, c'est pour ça qu'ils existent. Donc il faut investir dans l'éducation. C'est la première chose. On doit faire une coalition entre États, parce que l'Internet n'est pas une question d'un seul État. Et si on fait ça, on pourra éviter l'antisémitisme, le racisme et peut-être même le terrorisme. Mais le principe d'Internet, c'est de diffuser des messages sans régulation. C'est comme les voitures qui roulent sur les routes, ces plateformes vivent du maximum de gens qui vont regarder le texte que vous allez écrire.
Alors,
et la conséquence, c'est que ça encourage la radicalisation, la radicalisation. Donc il faut un partenariat entre gouvernements et entre grands opérateurs technologiques qui doivent comprendre qu'ils sont responsables du contenu qui circule sur leur plateforme. Et après, ça doit descendre jusqu'à l'homme qui se retrouve sur le terrain. Par exemple, les enfants qui voient du matériel,
et
il faut expliquer qu'on doit arrêter de, par exemple, le harcèlement ou tout ce qu'on voit sur Internet, il faut accepter qu'on le régule. Et on ne s'en occupe pas suffisamment.
Et comme par exemple,
les plateformes doivent prendre la responsabilité de ce qui circule sur leur réseau. Ils doivent supprimer des contenus.
Si
vous laissez du matériel comme ça pendant une heure, ça peut toucher des millions de gens en une heure. Une heure, c'est beaucoup pour Internet. Et donc ces sociétés, ces grandes sociétés internationales doivent comprendre qu'elles encouragent la violence, elles encouragent l'antisémitisme qui arrive au terrain, qui arrive jusqu'au terrain. Et ça va, et ça prend une traduction physique. Et ça, c'est notre analyse que nous avons. Regardez, par exemple, en Allemagne, il y a à Halle, il y a à 2 ans, je crois, le jeune qui est sorti se faire une attaque a passé une radicalisation fasciste nazie sur Internet. Et il a traduit cette radicalisation sur Internet par une attaque avec une arme. Alors heureusement, quand il a attaqué une synagogue, les portes étaient fermées correctement comme il faut, il n'a pas pu rentrer, il ne s'est rien passé, mais il a tiré sur les passants. Donc les grandes sociétés technologiques doivent comprendre qu'il faut accepter une coopération avec les États et les gouvernements ensemble, et après éducation, éducation, éducation. Alors moi, je suis un ancien des mouvements de jeunesse, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Et quand on nous expliquait le sionisme quand on était jeune, donc on nous disait parce que si les Juifs ont un État, alors cet État il peut parler d'égal à égal avec les autres États et il peut apporter quelque chose. Donc on a vu aujourd'hui sur Radio Shalom une illustration de ce qu'était cette idée du sionisme. C'est que voilà, maintenant les Juifs ont aussi des diplomates de très haut niveau, des ministres, un État, des premiers ministres qui peuvent parler des problèmes qui concernent les gens vraiment sur le terrain. Rudard, je rappelle que vous êtes, je l'ai dit à plusieurs reprises, une experte dans le domaine de la lutte contre l'antisémitisme. C'est vous qui coordonnez, qui êtes la directrice du service de lutte contre l'antisémitisme au sein du ministère israélien des Affaires étrangères. Et vous êtes aussi déléguée auprès de l'IRA. J'ai expliqué à plusieurs reprises que c'est la grande conférence très importante de lutte contre l'antisémitisme à travers le monde. Annie Modela, Ruth. Tada.
תודה רבה לך. וזה מה שעשינו ביומיים האחרונים. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Ruth Dar, notamment d'avoir pris le temps de venir faire un tour dans les studios de Radio Shalom après cette conférence très importante au Conseil de l'Europe.